Donc je suis très content d'être ici. Et je suis très content chaque fois que je me déplace parce que je me dis, tiens, il y a des frères et des sœurs aux quatre coins du monde. On peut aller n'importe où et on a toujours une église ou des frères et des sœurs avec qui on peut partager. Et on se connaissait pas ce matin. Et quand j'en ai salué quelques-uns à l'entrée, j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps, parce qu'il y a quelque chose qui passe, qui ne passe pas chez les autres. Donc ça, c'est extraordinaire. Et je suis toujours marqué aussi quand nous allons au culte le dimanche matin, on passe et je vois à côté de chez nous, il y a une station de lavage, et il y a des gens qui lavent leur voiture. Et je me dis, mais le temps qu'ils perdent à laver leur voiture, pourquoi ils viendraient pas avec nous pour laver leur cœur? Et quand j'en vois courir, je me dis, mais après quoi ils courent? Mais ils ont pas l'essentiel. Et moi, j'ai un kiné qui est extraordinaire. Il veut pas que je cours, que je fasse d'abdos. Ça se voit aussi un peu. Mais il m'a dit, le sport, ça détruit. Ne faites rien. Continuez ce que vous faites. C'est bien. Alors, ce matin, j'ai pas la main. Ça y est. Merci. Votre pasteur m'a demandé d'apporter le message et on voulait vraiment faire la séparation parce que c'est bien comme ça. Donc là, je prends une autre casquette, on va dire. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'on est toujours dans l'évangélisation et je pense que c'est aussi le rôle de l'Église. Alors, annoncer l'Évangile, est-ce que c'est l'affaire de spécialistes ou est-ce que c'est l'affaire de chacun ? C'est une question qu'on doit se poser chacun pour soi. Hein, parce que trop souvent, on a tendance à se décharger. Et je pense que la parole est claire. Et je voudrais vous lire le psaume 126, les versets 3 à 6. « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec chants d'allégresse. » Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Et là, il faut vraiment entendre que c'est le champ de mission. Alors, je vous invite à prier avant de commencer. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir et te glorifier parce que tu en es le seul digne. Merci parce que tu as mis devant nous des frères et des sœurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aux quatre coins de la France, mais aussi de la planète, Seigneur, nous avons un même amour pour toi, Seigneur, parce que tu es le centre de notre vie, tu es notre rocher, notre forteresse. Seigneur, et ta parole est claire avec nous aussi sur ce qu'elle veut. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour que nous soyons inspirés par toi. Il n'y a que toi qui puisse parler à nos cœurs et faire porter le fruit que tu attends de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, VS, c'est versus, c'est contre. Donc, chrétien ou disciple ? Chrétien contre disciple. Quel est notre statut ce matin ? Sommes-nous simplement des chrétiens ou des disciples ? Parce qu'il y a quand même une belle différence. Le disciple, c'est celui qui reçoit la doctrine d'un maître et qui la suit et qui la met en pratique. Et le chrétien est spectateur. Le disciple, lui, est acteur. Et entre être acteur et spectateur, c'est pas tout à fait pareil. Nous sommes des disciples de Jésus et celui-ci nous a donné une mission avant de partir. Il a été clair dans Matthieu 28, versets 18 à 20, il dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il n'a pas dit « Pasteur, occupez-vous des autres ». C'est un appel qu'il lance à chaque disciple. Et nous sommes des disciples. Et voici, il promet « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Fantastique. Alors, quelle est notre responsabilité ? Eh bien, notre responsabilité, c'est celle d'annoncer l'Évangile. Et dans Romains 3, 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et annoncer l'Évangile, dans Marc 16, versets 15 et 16, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Comment peut-on supporter, en tant que chrétien, en tant que disciple, que certains ne soient pas sauvés ? Moi, c'est un fardeau pour moi. Quand je dis fardeau, c'est un fardeau, et ça l'est devenu encore plus depuis que je suis Gédéon, parce que j'ai pris conscience de certaines choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être Gédéon pour comprendre ça. Moi, c'était mon cheminement personnel. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. On aime les bonnes nouvelles. Et dans le dictionnaire, quand on lit l'Évangile, on dit « prêcher l'Évangile à des populations non chrétiennes, convertir au christianisme ». Et prêcher, parce que j'aime bien regarder la définition des mots, c'est marqué « message de Jésus-Christ, prêcher l'Évangile ». Et en fait, ils disent aussi « c'est un code, une loi sacrée, une règle immuable, un document essentiel qui sert de fondement ». Eh bien oui, la Bible nous sert de fondement, c'est notre rocher aussi, il n'y a pas de problème. Alors que veut dire évangéliser ? À l'heure du marketing, où nous avons appris à nous méfier de ceux qui nous promettent des bonnes choses, et dans ce contexte, le mot du Nouveau Testament, évangéliser, peut faire parfois peur. On est gêné de proposer sa foi à quelqu'un d'autre comme s'il s'agissait d'un produit de vente. Et nous avons un sens si affiné du respect de l'autre que nous ne voulons surtout pas donner l'impression d'imposer nos idées ou de chercher à convaincre. Il y en a d'autres qui le font, vous inquiétez pas. Surtout quand il s'agit d'un thème aussi intime que la confiance en Dieu. Mais savons-nous vraiment ce que le Nouveau Testament entend par évangéliser ? En grec, le verbe est utilisé pour exprimer, annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un d'évangélisé est en somme quelqu'un qui a été mis au courant. Le verbe peut être employé pour l'annonce d'une naissance, d'un armistice, d'un avènement, d'un nouveau dirigeant. Il n'a donc au départ rien de religieux. C'est pourtant ce mot-là, presque trop banal, que les chrétiens ont choisi pour décrire le plus précieux de leur foi, l'annonce de la résurrection du Christ. Ce qui est intéressant, c'est que le verbe a peu à peu perdu son complément. On ne dit plus « mettre au courant quelqu'un de la résurrection du Christ », mais simplement évangéliser quelqu'un, c'est passé dans notre langage courant. C'était bien sûr pour aller plus vite, mais ce manque de complément a aussi un sens plus profond. Annoncer la bonne nouvelle de la résurrection n'est pas pour les chrétiens parler d'une doctrine à apprendre par cœur ou d'une sagesse à méditer. Évangéliser est avant tout témoigner d'une transformation à l'intérieur même de l'être humain. Par la résurrection du Christ, c'est notre propre résurrection qui a déjà commencé. Et par son infini respect vis-à-vis de ceux qu'il rencontrait, visible à travers les guérisons rapportées dans les évangiles, par son abaissement pour ne laisser personne plus bas que lui, c'est le sens du baptême, ou du baptême de Jésus, le Christ Jésus a redonné valeur et dignité à chacun. Encore plus, Jésus a été avec nous dans la mort pour que nous puissions être près de lui dans sa communion avec le Père. C'est par cet admirable échange, ce qu'on appelle la liturgie de Pâques, que nous découvrons que nous sommes pleinement acceptés en Dieu, pleinement assumés par lui, tels que nous sommes. Évangéliser n'est donc pas avant tout de parler de Jésus à quelqu'un, mais bien plus profondément, le rendre attentif à la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. Je répète, évangéliser, c'est rendre attentif l'autre qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Évangéliser, c'est donc transmettre les mots de Dieu qui retentissent 5 siècles avant le Christ, puisque dans Ésaïe 43:4, on peut lire « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Depuis le matin de Pâques, nous savons que Dieu n'a pas hésité à tout donner pour que jamais nous n'oublions ce que nous valons. Alors peut-on évangéliser tout en respectant la liberté de son interlocuteur ? Faire prendre conscience aux gens de la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu n'a rien d'optionnel, ça n'est pas une option, c'est quelque chose d'obligatoire. Et Paul dira même « Malheur à moi si je n'évangélise pas » dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Pour Paul, l'évangélisation est la conséquence même de son attachement au Christ. Par sa résurrection, le Christ nous unit d'une manière inaliénable à Dieu. Plus personne ne peut se sentir exclu de cette union. Pour autant, la question demeure, comment communiquer cette nouvelle à des gens qui ne connaissent rien de Dieu et qui semblent ne rien attendre de lui ? Quand nous distribuons, les gens disent « Vous croyez en Dieu, vous ? Mais ça rierait !» Donc, et là, on a eu la mission, on ne fait pas demi-tour, on a la mission de lui annoncer l'Évangile. Alors tout d'abord, c'est par notre attachement personnel au Christ. Et Paul dit aussi « Vous avez revêtu le Christ » dans Galates 3. L'évangélisation demande avant tout de commencer par soi-même. Et c'est d'abord par notre vie, non par nos paroles, c'est par notre vie, par nos actes, que nous témoignons de la réalité de la résurrection. le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts, dans Philippiens. C'est par notre assurance, par notre joie de nous savoir aimer de toute éternité, que le Christ devient crédible aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas. C'est notre attitude qui va les faire changer. Il est des situations où les mots sont pourtant nécessaires, et Pierre le dit dans 1 Pierre 3, « Soyez prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et bien sûr, parler d'un amour intime demande plus de délicatesse, et les mots manquent parfois dans certaines situations où la foi est remise en cause brutalement. Et Jésus le savait bien parce qu'il disait à ses disciples, « Lorsqu'on vous conduira devant les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. » Et puisque le Christ s'est revêtu de notre humanité et que nous avons revêtu le Christ, nous ne devrions plus avoir peur pour parler, pour exprimer notre foi aux autres. Et dans notre vocation, en fait, de chrétien, comment mettre cela en pratique? Alors, il y a des pistes. Hein, vous en connaissez parce que je sais que vous mettez en pratique, mais il y a des pistes. Alors, la première piste, c'est la plus forte pour moi, c'est de regarder aux besoins plutôt qu'à la difficulté. Regardez aux besoins plutôt qu'à la difficulté, ça a changé. C'est un de nos frères qui est un responsable international qui un jour, il y a quelques années, nous a dit ça dans un congrès, et cette phrase m'a vraiment percuté. Regardez aux besoins plutôt qu'à la difficulté. Et c'est vrai que c'est ce qui fait la différence entre motivé et déterminé. Si vous avez quelqu'un que vous aimez fort, qui est dans une situation périlleuse, vous n'hésitez pas à sauter dans l'eau pour aller le chercher, vous n'hésitez pas à traverser des flammes pour aller le chercher, vous dites pas « Ah, il va brûler » ou « Ah, il est en train de se noyer », vous y allez parce que vous y tenez. Eh bien, il faut avoir cette même détermination pour la foi et pour les âmes qui sont en face de nous, qui se perdent. Et j'aime beaucoup cette phrase aussi, qui est d'un auteur connu, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Malheureusement, dans la Bible et dans notre vie, trop souvent, c'est le contraire qui s'agit. Et par contre, le premier des exemples qui m'est venu à l'esprit, c'est la multiplication des pains. Quand il y a une fois 3 000, une fois 5 000, et Jésus dit « Alors, on va leur donner à manger ». Et les apôtres disent « Ouais, mais Seigneur, il y a 3 pains, il y a 5 pains, il y a quelques poissons, c'est pas possible, renvoie-les chez eux, il faut qu'ils aillent manger chez eux, on fera la réunion après ». Il dit « Amenez-moi les pains et les poissons ». Et la première fois, il rend grâce et il en reste. Et très rapidement, il y a la deuxième situation, et là, les disciples, ils n'ont toujours pas compris la leçon. Mais Jésus ne leur a pas dit « Oh, ça fait 2 fois, ça ne va pas bien se faire, -2 sur la note du mois ». Non, non, il dit simplement, il leur apprend encore une fois à faire et à refaire. Et le Seigneur, il est pareil avec nous, il nous met des situations devant nous dans la vie courante de tous les jours. Et puis, on y répond, on n'y répond pas. Et si on ne répond pas, vous inquiétez pas, il remettra une situation. Mais si on lui demande « Seigneur, à qui veux-tu que je parle aujourd'hui ?» Vous inquiétez pas, il va en mettre du monde devant vous. Alors, le plan du salut, en fait, les Gédéons l'ont intégré directement à l'arrière du Nouveau Testament. Il est écrit, et nous avons une pratique, on peut donner des Nouveaux Testaments comme ça quand on fait une distribution massive, et après on fait du un par un. Et quand on va croiser quelqu'un, le Seigneur, quand on lui dit « mets-moi quelqu'un devant moi », eh bien il va vous mettre quelqu'un devant vous. Et là, plutôt que de lui dire « Tenez, ça va changer votre vie, prenez-le !» Puis, eh bien, on va dire, on approche la personne, on va parler avec elle, peut-être du beau temps ou n'importe quoi, et après on va dire « Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que Dieu a une importance pour vous ?» Il dit non, il dit oui. On peut enchaîner la discussion. Non, mais pourquoi? Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Et il me répond, il ne répond pas, il m'envoie balader, on passe à quelqu'un d'autre. On n'est pas là pour embêter les gens. Mais s'il me dit oui, est-ce que vous pouvez lire ça? Est-ce que vous voulez qu'on le lise ensemble? Et c'est le plan du salut. Ouais. Et si vous saviez, la Bible va toucher les âmes, va toucher les cœurs. Mais ce plan du salut, c'est extraordinaire parce que quand la personne, elle lit, son cœur est directement touché. C'est que les versets de la Bible, mais qui ont été concentrés. Et on en parlera tout à l'heure. Donc, dans les différentes étapes du salut, en fait, il y en a 5, je passe rapidement, elles sont répertoriées, elles sont dans donc à l'arrière, et on reviendra dessus, je passe rapidement. Mais en fait, quand on va distribuer, quand on veut parler de Dieu, on sent bien qu'on a des freins, il y a des choses qui nous retiennent. Alors, qu'est-ce qui nous retient? Ça, c'est la question, puisque je passe tous les versets. Donc, ce qui nous retient dans notre vie de chrétien, moi je sais ce qui me retient, mais il faut que je travaille dessus. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, qu'est-ce qui te retient pour annoncer l'Évangile? Est-ce que quand on a reçu l'Évangile, est-ce que ce n'était pas le plus beau des jours? Est-ce que ce n'était pas le merveilleux moment qu'on a vécu dans notre existence? Et pourquoi vous êtes là ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit « il faut absolument venir » Non, vous venez parce que vous venez rendre un culte à Dieu. Mais est-ce que les autres, ils n'y ont pas droit? Et on ne peut pas toujours attendre que ce soit les pasteurs, que ce soit les évangélistes, que ce soit les missionnaires, etc. Nous avons tous notre rôle là-dessus. Alors, un frein, je vais passer, vous savez tout ce que c'est qu'un frein, j'ai encore pris le dictionnaire, et c'est un organe ou un dispositif qui sert à ralentir ou à arrêter un mouvement d'un ensemble mécanique. Vous avez ça sur votre voiture, votre vélo, etc. Et il est important d'avoir des freins parce que ça évite les situations périlleuses. Mais aussi, pour ceux qui font de la compétition, on accélère en même temps qu'on freine pour travailler la trajectoire. Donc ça, mais c'est un peu compliqué et technique. Et est-ce qu'on peut rebrancher à la bonne dia, s'il vous plaît? Ça a sauté là pour moi. Pour tout le monde d'ailleurs. Donc en fait, le travail du freinage, c'est quelque chose d'important. Et si on freine, en général, c'est qu'on voit un danger. Il revient pas? Ah, super. Alors, hop, je reviens. Je suis désolé. On est sur la même diapo? Oula, on est au début, là. Oula, on va passer vite. Désolé, hein, la technique, des fois, c'est difficile. Alors, voilà. Super. Alors, une seule question. Qui a intérêt, dans notre vie de chrétien, à ce que nous freinions? Moi, je dis ça comme ça, ou qu'on soit à l'arrêt. Alors, en fait, on le sait tous, hein. Désolé, ça passe pas. Ça y est. Alors, certains, dans mon entourage, disent « Oh, moi, je lève le pied un peu ». Mais je leur dis « Attention, lever le pied, c'est déjà freiner, parce que votre véhicule ralentit. Et dans votre vie de chrétien, quand vous levez le pied, pour une raison X ou Y, eh bien, vous êtes en train de ralentir. Et qui ralentit, ben, s'arrête très souvent. Hein. » Donc, les freins dans ma vie de chrétien, ils sont déjà identifiables. Il faut qu'on les identifie chacun pour soi. Et en fait, quand on les a identifiés, est-ce que c'est possible de les faire sauter? Avec le Seigneur, tout est possible, il le dit dans sa parole. Donc, en fait, dans Juges 6, 12, quand il est dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Mais ça s'adresse à quelqu'un de bien spécifique dans la Bible, c'était à Gédéon. Mais nous sommes tous Gédéons, même si on n'est pas dans l'association des Gédéons. En tant que chrétiens, nous sommes tous des Gédéons. Et au verset 14, il dit « Va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Et si le Seigneur nous envoie, de quoi avons-nous peur ? Qu'est-ce qui peut nous retenir ?» Et au verset 15, Gédéon, ben, il se cherche une excuse. « Mais Seigneur, je suis le plus petit dans la maison de mon père, envoie quelqu'un d'autre. » On lance la patate chaude à quelqu'un. Et au verset 16, l'Éternel dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Mais si le Seigneur est là et qu'il est devant nous pour nous aider, mais de quoi avons-nous peur? Alors je vous rassure, c'est tout à fait humain, cette sensation d'avoir peur. Et je vous assure, il n'y en a pas un, je ne connais pas une personne qui, à un moment, n'a pas peur de quelque chose. Mais là, je vais vous faire des images qui sont peut-être un petit peu dures. Et je voudrais juste vous demander, vous ne répondez pas, c'est en vous-même, quand vous voyez l'image ou les images qui vont apparaître, j'ai juste une question. À quoi, mon frère, ma sœur, penses-tu à ce moment bien précis? Je ne fais pas de commentaires. Vous voyez tous ou... En fait, c'est un homme qui va se faire pendre. C'est une image d'un film. Hein. Mais dans la réalité, c'est comme ça aussi. Ça, c'est lors d'un concert. On voit plein de gens. On n'arrive pas à les identifier, contrairement à l'image d'avant. Là, il y a encore beaucoup plus de monde. C'était, en fait, l'installation d'Obama aux États-Unis. D'accord? Mais là, il y a du monde. En veux-tu, en voilà. Et là, une scène de la vie courante. C'est, en fait, des gens qui sont au supermarché pour aller faire leurs courses. À quoi penses-tu, mon frère, ma sœur? Eh bien, moi, j'ai qu'une question à chaque fois que je vois une personne dans la rue. Ce matin, nous sommes arrivés, on a vu des personnes. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont le salut et la vie éternelle? Est-ce qu'ils connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel? C'est la seule question que je me pose. Après, je m'en pose d'autres. Et je me dis, qui leur parlera? Est-ce que je vais toujours compter sur quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'à un moment, moi, je vais être acteur? Est-ce que je vais être disciple? Eh bien, ils ont tous besoin du salut comme nous avons eu besoin du salut. Et si quelqu'un nous a parlé, il faut bien que quelqu'un y leur parle. Et l'évangélisation, ce n'est pas un passe-temps ni un hobby. C'est une mission du salut dirigé en faveur des perdus. Et tout le monde en a besoin. Parce qu'il y aura l'instant T où tout va s'arrêter. Et à ce moment-là, ça sera trop tard. Et on a toujours l'impression qu'on a le temps. Le 5 février de cette année, à 16h25, j'étais sur ma moto, j'étais droit debout et je pensais au week-end que nous allions passer avec mon épouse. On devait partir faire du ski. À 16h26, j'étais par terre, accidenté, tout le côté droit fracassé. Je m'y attendais pas, ça. Hein. Et grâce à Dieu, je suis vivant, j'ai tous mes membres. Mais j'aurais pu perdre un membre, j'aurais pu mourir. Mais les autres que nous avons en face de nous, ils sont exactement dans la même situation. La personne que vous allez croiser dans la rue tout à l'heure en sortant, on peut attendre que ce soit quelqu'un qui va lui parler de Dieu pour le salut. Mais si personne lui en parle, l'Éternel dit, son sang te sera redemandé. Nous avons tous la responsabilité de remplir cette mission et par contre, on a des murailles, on a ce qu'on appelle des freins. Hein, tout de suite, ça devient des montagnes. Mais comment je vais faire? Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, on est bien entendu, et je sais que dans cette église, vous bougez, vous faites énormément de choses. Et il faut en fait systématiquement prendre connaissance de ce qui nous freine et passer au-delà. Alors John Wesley, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais il date un peu parce qu'il est mort en 1791, on n'a pas eu le plaisir de se connaître. Il a simplement dit, on a une image de lui, il a dit quelque chose, moi qui me... Waouh ! Je crains trop Dieu pour avoir peur des hommes. Et là, moi, ça m'a interpellé. Hein. Je crains trop Dieu pour avoir peur des hommes. Et c'est Dieu que nous devons craindre, c'est pas l'autre qui va nous rejeter. Parce que la personne à qui vous allez parler de Dieu dehors, quand elle vous rejette, c'est pas vous qu'elle rejette. C'est Dieu qu'elle rejette. Alors, il n'y a personne qui est né chrétien. On a tous fait le pas de la foi pour passer de l'autre côté. Eh bien, rappelons-nous que lors de notre conversion, on a eu une motivation, on a eu un engagement. Et quel est-il aujourd'hui? Comment on se situe devant Dieu? Et avant de faire sauter les freins, il faut les identifier pour nous-mêmes. C'est un travail personnel que nous devons faire. Alors, de quoi avons-nous peur? Alors, on peut avoir peur de mille et une choses. Hein. On peut avoir peur d'être intimidé, la peur de l'inconnu, la solitude, la confusion, la haine, le qu'en dira-t-on, le rejet, hein, l'indifférence. Nous, quand on distribue, il y a des gens qui vous passent devant comme ça. Il y en a qui nous insultent, il y en a qui déchirent les Nouveaux Testaments. Il y en a qui... Voilà. Et il y a le péché. Mais ça, nous, c'est en relation verticale. Hein. Enfin, ouais, verticale avec le Seigneur. Le péché, vous voyez directement avec le Seigneur. Nous, on ne va pas intervenir dessus. Par contre, le Seigneur, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc ça, c'est vraiment fort. Donc mes freins, quels sont mes freins? Il faut identifier quels sont mes freins pour le témoignage personnel. Pourquoi je n'arrive pas à témoigner? Qu'est-ce qui m'empêche de m'engager dans mon église? Qu'est-ce qui m'empêche de parler à ceux qui m'entourent pour prendre des responsabilités dans l'église, pour faire partie du conseil? Et mille et une choses, à nous d'identifier ces choses-là. Et n'ayez crainte, hein, cette réaction est tout à fait naturelle et humaine. Mais dès qu'on en a conscience, il faut se rapprocher du Seigneur et travailler. Alors, ça, c'est un petit exercice que j'ai fait l'année dernière avec nos amis Gédéon. Et tout comme nous tous, ce qui ressort là, c'est un logiciel. En fait, vous prenez les avis de chacun et ça donne ce qui est écrit en plus gros, c'est ce qui ressort le plus souvent. Et quand on voit, il y avait le mot peur de quelque chose, et il y a la peur de l'intimidation, le peur du qu'en dira-t-on, des clichés, de la confusion. Et vous voyez que ce qui ressort beaucoup, c'est l'intimidation, le manque de temps, le manque de rejet, enfin le rejet, etc. Les Gédéons sont des gens comme vous et moi. On est pareil, on a les mêmes sensations. Et il faut qu'on fasse aussi un travail sur nous-mêmes. Et je vous assure qu'entre l'année dernière et cette année, quand on raconte des témoignages de ce qu'on a fait en un an, parce qu'on prend des temps de formation pour ça, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui n'osaient pas aller distribuer le Nouveau Testament, aller parler avec quelqu'un, et de plus en plus, les gens le font. Imagine, je ne sais pas si vous connaissez la microbiologie. Un microbe, quand il a toutes les conditions requises pour se développer, toutes les 20 secondes, il y en a qui sait plus, il y en a qui sait moins, mais toutes les 20 secondes, un en donne 2, 2 en donne 4, 4 en donne 8. Au bout de quelques heures, vous en avez des milliards. Imaginez si chacun d'entre nous, on pouvait témoigner autour de nous, et que 1 en donne 2, que 2 en donne 4. C'est la parabole de 1 grain en donne 100, 60 ou 30. C'est ça la parabole. Parce qu'il y en a qui vont devenir pasteurs ou missionnaires, ils vont évangéliser, ils vont ramener énormément de monde. On a entendu Marc tout à l'heure parler de ce qui s'était passé au Mexique. Et alléluia. Mais si personne n'y va, il ne faut pas toujours compter sur les autres. Dans Deutéronome, il y a le chapitre sur les lois de la guerre. On prend conscience de la forte assurance de l'Éternel et on n'a rien à craindre. Et le livre de Josué illustre ce principe biblique dans la mesure où l'enfant de Dieu monte au combat. Il y a des attaques derrière. Et je serais tenté de dire, si un chrétien n'a pas de combat dans sa vie, s'il n'y a pas d'épreuve dans sa vie, il y a des questions à se poser. Et je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous raconter, je raconterai tout à l'heure si vous voulez, j'ai 2 ou 3 minutes, ou... ce n'était pas prévu, mais je l'ai vraiment à cœur. Quand je suis arrivé dans la chambre, on m'a emmené à l'hôpital le 5 février, je suis rentré dans la chambre après avoir été recousu au genou et un peu de partout, et quand je suis rentré dans la chambre, je le partageais avec quelqu'un qui était déjà là depuis début janvier, pour un accident aussi de deux roues. Et cet homme était au téléphone avec quelqu'un que j'ai identifié comme son père, parce qu'après il lui a dit « papa ». Et la fin de la discussion, ça a été « le père, oui, ben écoute, on va prier pour toi ». Déjà, moi, ça, ouh, il était 23h à des poussières, je dis « hum ». Et là, cette personne dit « je veux pas ». Il s'est mis à crier « je veux pas que vous priez pour moi, à chaque fois que vous priez, il m'arrive quelque chose ». Et il raccroche. Je dis « bon, Seigneur, je pense que j'ai compris pourquoi j'étais là aujourd'hui ». Je le paye un peu durement, mais bon, ok, j'accepte la mission. Parce qu'il y avait une mission. Qui allait lui parler de Dieu? Et pendant que j'étais à l'hôpital, 40 petits blancs, parce que c'est le personnel médical, 40 petits blancs sont partis dans les mains des infirmières et autres. C'est pas à ma gloire, c'est simplement parce que qui va leur donner si le Seigneur a permis que je sois là aujourd'hui. C'est à moi de les donner, c'est pas en attendant que quelqu'un d'autre soit blessé. Donc je l'ai fait. Et cette personne qui était avec moi, je me suis dit, bon, je suis là pour un moment, je ne vais peut-être pas lui donner tout de suite, mais je lui ai proposé, parce que tu lis ta Bible, et puis etc. Puis j'ai eu le pasteur numéro 1, le pasteur numéro 2 qui est venu me voir, et à chaque fois, on prie. Les frères venaient me voir, on prie. Et lui, qui était contre la prière, je ne vous dis pas, il en a entendu. Hein. Et à chaque fois, le pasteur, il disait, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Non, 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 je ne veux pas qu'on prie pour moi, priez pour ma famille, mais pas pour moi. Et après, j'ai expliqué et tout. Cette personne qui était réfractaire à l'évangile, quand je suis parti, j'ai dit Seigneur, enfin, pendant le séjour, j'ai dit Seigneur, il faut que tu me donnes vraiment une occasion bien précise pour qu'il accepte. Et il a reçu son petit bleu 10 minutes avant que je ne parte. Je ne voyais pas la scène arriver, quoi, le bon moment. Et le bon timing est arrivé. Et là, cette personne m'a dit, je le prends avec plaisir. Waouh. Mais je ne le lirai pas. Oh. Mais je veux bien que tu me le lises. Ah. Mais comment faire alors que je suis parti vraiment mal en point, brancard et tout, parce que j'étais loin d'être mobile. Comment faire? Eh bien, merci Seigneur pour la technologie. Parce que tous les jours avec Messenger, vous avez le droit à une minute d'enregistrement sur une séquence. Je prenais des passages que je lisais dans la Bible, le passage du jour, quelque chose que le Seigneur me mettait à cœur. Et tous les jours, il a reçu sa petite minute. Et il a commencé à recevoir des versets tous les jours aussi. Et puis des petites pensées. Et vous savez ce qui s'est passé au bout de quelque temps? Eh bien, cette personne, elle a été touchée. C'est lui qui m'a envoyé des versets. Donc j'ai su qu'il avait commencé à lire la Bible. Et il choisissait les versets aussi, lui, comme je le faisais. Il mettait la référence. Et depuis, ça fait des ping-pong. Et dimanche dernier, je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que ça te ferait plaisir de venir à l'église? Parce que l'église a prié pour toi. Mais il y a aussi 1200 Gédéons en France qui ont payé pour toi. Il a été touché, il est venu. Et ça l'a touché. Et aujourd'hui, on est là, mais dimanche prochain, on va le réinviter. Il va venir à l'église. C'est le Seigneur qui fait son travail. Donc quand on est attaqué, c'est pas grave, parce qu'on est sur le bon chemin. Alors, le Seigneur nous dit dans la Bible, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » De quoi avoir peur? Et il nous a dit, « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle et tenez ferme dans un même esprit. Alors, annoncez l'Évangile. » Est-ce que c'est une affaire de spécialiste ou une affaire de chacun? Et c'est là-dessus que je voudrais vous laisser la pensée. Alors, il est clair que dans le Nouveau Testament, je voudrais vous lancer un défi. Est-ce que vous aimez les défis? Je pense que oui, mais vous n'osez pas le dire. Il est clair que ces Nouveaux Testaments sont financés par des Gédéons, par des églises. Et nous avons la mission de les donner directement à ceux à qui ils doivent être donnés, les lycéens, les militaires, tout ce que je vous ai dit. Par contre, dans mon église, j'ai lancé aussi le défi. J'ai dit, est-ce que ça ne changerait pas notre ville où on est rejeté? Est-ce que ça ne changerait pas notre ville qui est le double de chrétiens? On est une trentaine dans nos églises. Est-ce que ça ne serait pas bien qu'on soit 60, qu'on soit 120 et que les murs soient trop petits pour qu'on parte? On m'a dit, si, si. J'ai dit, ben, on va se mettre au boulot, il n'y a pas que les Gédéons, il n'y a pas que le pasteur. Alors, pour ne pas donner aux frères de l'église quelque chose qui doit aller ailleurs qu'aux frères de l'église, j'ai demandé à notre secrétaire de nous acheter des petits bleus. Mais ils ne sont pas imprimés par les Gédéons, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'écart. Il y a juste le logo. D'accord? Et ils sont pareils. Parce que des fois, on dit, ah ouais, mais moi, j'ai pas le petit bleu comme toi, on peut pas en avoir. Ben non, tu peux pas en avoir, parce que ça t'est pas destiné, mon frère, ma sœur. Par contre, ça, ça s'achète. D'accord? Et puis, le plan du salut, ben ouais, mais il y est pas. Ben, c'est pas grave. Alors, personnellement, je l'ai imprimé. J'ai fait un recto verso qui correspond exactement à ce plan du salut-là. Et j'ai dit, bah, tu le colles ici, je l'ai fait un peu plus large, tu mets un petit point de colle, tu le colles dedans, et puis quand tu vas dans la rue, tu discutes avec une personne que tu vois, et si tu as la pétoche, t'inquiète pas, nous aussi on l'a. Mais seulement dis au Seigneur, quand tu te lèves le matin, Seigneur, mets une personne sur mon chemin aujourd'hui. Et puis si tu mets personne, tu viens me revoir. On ira ensemble dans la ville. Mais je vous assure, 300 jours par an, vous pouvez en distribuer pas mal. Et que deviendrait le quartier? Il n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté du monde. Laissons faire les spécialistes. Mais dans cette rue-là, dans la rue d'à côté, il y a un travail à faire. Vous le faites certainement déjà, ça j'en suis sûr. Mais vous voyez, c'est tout simple. Et si vous voulez la maquette, il y a 8 feuilles. En fait, après on découpe. Donc ça fait, dans les Nouveaux Testaments qu'on achète, on le met dedans et puis on va au boulot. Parce que le Seigneur lui dit, va avec la force que tu vois. Et l'évangélisation, c'est l'affaire de tous et pas simplement des pasteurs. Alors, celui-là, c'est dans les librairies chrétiennes. On va dans les librairies chrétiennes. Donc là, nous, c'était avec... c'est Esaïe... là, c'est la Société biblique de Genève. Mais je sais que Esaïe 55 aussi, qui est à Marseille aussi, mais à Valence, ils font aussi. Donc voilà, on peut les acheter. Et puis s'ils sont pas bleus, c'est pas grave. Mais dans le même format, il y en a plein. Et puis, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de concurrence parce qu'on travaille tous pour le même patron. Alors, on va prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te remercier pour tes bienfaits. Merci parce qu'un jour tu as mis quelqu'un devant nous pour nous racheter. Ça a pu être une personne, ça a pu être un petit bleu qu'on a trouvé par terre, ça a pu être aussi d'une autre manière. Mais Seigneur, quand tu as voulu que nous soyons avec toi dans ta famille, Seigneur, eh bien tu as trouvé le moyen et tu nous appelles dans la Bible, Seigneur, tu nous appelles dans notre vie de chrétien à ne pas être simplement des chrétiens, mais aussi être des disciples qui sont disciplinés, Seigneur, et qui cherchent à gagner des âmes pour toi, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes sur la terre, c'est pas que pour prendre du bon temps, Seigneur, mais c'est aussi tu nous appelles à aller chercher les âmes, et après ça nous appartient pas, Seigneur, c'est à toi que ça appartient. Toi tu nous dis semer la parole, et puis après eh bien d'autres le arroseront et d'autres moissonneront, mais l'important, Seigneur, c'est que il y ait cette semence qui soit apportée à nos concitoyens. Et nous voyons que dans ce monde qui part dans tous les sens, qui va à l'encontre de l'évangile, Seigneur, dans plein de domaines, eh bien Seigneur, ils ont besoin de ta lumière. Et contrairement à ce que nous croyons, Seigneur, eh bien, ou les peurs que nous pouvons avoir, quand on donne les évangiles, beaucoup sont reconnaissants et beaucoup donnent leur vie à Christ, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons être des disciples, Seigneur, pour toute ta gloire et ta seule et unique gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.